Bonjour à toutes et à tous, je suis Océane de Grinskel. Ne vous inquiétez pas, pas besoin de vérifier votre téléphone, vous êtes bien sur le podcast Écolo au boulot. Mais j'ai subtilisé l'antenne pour un épisode très particulier aujourd'hui. Alors il s'agit du 50e épisode d'Écolo au boulot. Vous vous rendez compte que ça, Cassandre, elle a conçu, elle a enregistré, elle a monté 49 épisodes toute seule. Ça mérite bien quelques applaudissements. Et sous vos acclamations, accueillons notre intervieweuse préférée. Bonjour Cassandre.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que ça fait d'être l'invitée de son propre podcast ?
Eh ben, c'est pas mal parce que ça me met à la place de mes invités d'habitude. Donc, je ressens un peu ce qu'ils peuvent ressentir au moment d'enregistrer. Donc, ça me permettra peut-être de les mettre encore plus à l'aise pour les prochains épisodes.
Elle pense déjà aux 49 prochains épisodes et à de comment améliorer tout ça, c'est génial. Alors aujourd'hui, si j'ai hacké ton podcast, c'est pour que tu nous parles de ton métier, que tu nous parles un petit peu de toi. Quel est ton métier ? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ?
Oui, alors mon métier, c'est chargé de mission mobilité, dans le sens mobilité durable. Ça fait vers 6 ans au moins que je travaille dans la mobilité durable. Mais par contre, je ne faisais pas ça à temps plein avant. Et donc là, il y a un an et demi, j'ai changé d'entreprise et de poste pour faire ça à temps plein. Et donc, je travaille pour l'Agence locale de l'énergie et du climat de la Loire. Donc, c'est sur l'échelle d'un département.
Très intéressant. Et alors, pour qu'on arrive un petit peu à se projeter dans ton métier, est-ce que tu as une journée type ?
Je n'ai pas forcément de journée type, peut-être plus une semaine type. En fait, ça dépend beaucoup des projets sur lesquels je travaille chaque jour ou chaque semaine. En fait, peut-être pour préciser, mon métier, c'est d'accompagner les collectivités territoriales et les entreprises dans la mobilité durable. Donc, ça dépend plus finalement des projets que eux veulent mener et je vais les accompagner plutôt que des choses que nous, on va faire en tant qu'agence de l'énergie et du climat. On a quelques actions, un peu de communication, formation, sensibilisation, mais c'est pas la majorité de ce que je fais. Donc en fait, mon temps, il dépend vraiment en fait, des projets que j'accompagne. Donc soit je travaille sur une étude ou sur des projets concrets d'entreprise ou de collectivité, soit je suis à des réunions ou sur le terrain aussi. Ça peut arriver que j'aille voir des aménagements de vélo, covoiturage. Ça dépend vraiment de ce sur quoi je travaille.
Super, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail au fur et à mesure. Est-ce que tu as envie de nous parler justement d'un projet, d'un accompagnement en particulier qui t'a rendu particulièrement fière, que tu as apprécié ?
En fait, dans les projets mobilité, dans les collectivités, en général, c'est des projets assez longs à mener. Donc celui que j'ai en tête, dont vraiment je suis fière, en tout cas, qui m'a rendue très satisfaite. C'était sur mon poste précédent, où je suis restée 5 ans, donc j'ai vraiment eu le temps de mettre des choses en place. En fait, je suis arrivée sur un lieu où il n'y avait rien du tout en termes de mobilité durable, transport en commun, etc. Et je suis repartie en ayant installé 4 lignes de covoiturage, plus j'avais lancé aussi toute une démarche autour de transport en commun. Et un an après mon départ, ça s'est mis en place, ça a vu le jour. Il y a des lignes de transport à la demande maintenant qui desservent la zone d'emploi où je travaillais. Donc ça, c'est une grosse fierté parce que c'est un travail de longue haleine. Quand on part de zéro et qu'on met tout en place et qu'il y a des personnes au final qui montent dans des voitures en covoiturage, qui montent dans des transports en commun, c'est une grosse fierté d'arriver à ça à la fin. Après, sur mon poste actuel, du fait que ce soit des projets un peu longs, je suis plus encore en phase d'étude sur ce type de projet. Donc ça se mettra en place plutôt dans cette année ou dans les années à venir. Et je me concentre plus sur des petites réussites du quotidien, soit où on a réussi à accompagner un salarié en particulier, à lui trouver une solution de mobilité plus durable qui lui correspond, soit avoir convaincu, j'ai un exemple d'une commune où ils n'étaient pas sûrs de changer de véhicule pour un véhicule propre et en les accompagnant, j'ai réussi à les convaincre d'abandonner deux anciens véhicules polluants pour les remplacer par un seul véhicule électrique qui convenait tout à fait à leur usage. Et voilà, c'est des petites fiertés du quotidien où on se dit on rame un peu, mais ça sert à quelque chose.
C'est vraiment intéressant, tu as une diversité d'acteurs et d'activités à la fois dans ton poste. Avec qui généralement tu vas travailler? Parce qu'on a entendu des salariés, des communes, j'imagine pour mettre en place des transports en commun, il faut travailler avec des solutions également de transports en commun ou de covoiturage. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu cette partie?
Avec qui je travaille? Bah, dans les collectivités territoriales, ça dépend de leur taille, mais je vais travailler soit avec les agents des collectivités, soit avec des élus, parfois, en direct. Dans les entreprises, je travaille avec les personnes qui vont être en charge des sujets mobilité ou sur qui ça va retomber, peut-être plus précisément. C'est rare d'avoir quelqu'un en charge du sujet, mais ça va être les personnes qui s'occupent des ressources humaines, de tout ce qui est HSE, QHSE, parfois de RSE aussi, quand ça existe dans les entreprises, ou des assistants, des directeurs, des directrices. Ça dépend. Et puis, comme on accompagne notamment des démarches de plan de mobilité employeur, peut-être qu'on y reviendra plus tard, il peut arriver que je fasse des ateliers, des conférences dans les entreprises. Et dans ce cas-là, j'échange directement avec des salariés. Donc ça, c'est des aspects très, très concrets. Et ensuite, les personnes avec qui je travaille, ça va être tout l'écosystème mobilité. Donc, les personnes qui proposent des solutions de mobilité, quelles qu'elles soient, covoiturage, vélo, on travaille aussi sur tous les aspects qualité de l'air, donc sur les véhicules, c'est assez large en effet, et c'est ce qui fait la richesse de mon poste.
Merci, et du coup je rebondis, tu as parlé des solutions de mobilité, quelle est un peu ton opinion sur la mobilité douce et qu'est-ce que tu conseillerais pour certaines entreprises ou collectivités à mettre en place?
Alors, ça ne va pas être les mêmes choses à mettre en place en fonction qu'on soit une collectivité ou une entreprise. Mais en fait, les solutions, de ce que je vois aujourd'hui, des fois, on cherche un peu une solution miracle qui va régler tous les problèmes. Et en fait, le problème, il est assez complexe. Et ce n'est pas une seule solution qui va tout régler. C'est plutôt une multitude de solutions qui, mises bout à bout, vont aider les personnes à pouvoir passer à la mobilité durable. Et je dis pouvoir parce que ce n'est pas qu'une question de volonté, parfois ça l'est, mais souvent, il n'y a pas que ça. En mobilité, moi je dis souvent qu'on est un pansement à l'urbanisme. C'est-à-dire que quand on a un aménagement du territoire qui a sectorisé un peu les différentes zones de vie, c'est plus compliqué de se déplacer. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on constate qu'on a des zones dans lesquelles on a des habitations, des zones dans lesquelles on a les entreprises, des zones commerciales. Et en fait, pour se déplacer entre toutes ces zones, il faut une voiture souvent. C'est très mal connecté, ou c'est pas pratique, ou les horaires vont pas. Et là, on est vraiment je peux pas faire autrement. Alors, il y a des personnes qui vivent pas très loin de leur entreprise, qui peuvent y aller à pied, ou en transport en commun, ou en vélo. Mais le problème de fond, c'est souvent que les emplois sont trop loin de là où on est, ou que les services sont pas accessibles. Pour moi, en fait, c'est le premier point à penser, c'est ça, c'est comment je peux réduire les distances. On a un passif, on peut pas changer toutes les villes, tout l'aménagement du territoire comme ça, mais c'est vraiment une question prioritaire pour moi. La mobilité, c'est la conséquence de tout ça. Donc, il faut pouvoir réduire les distances. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque dans les émissions de CO2 liées à la mobilité, c'est que les distances, en fait, depuis 40-50 ans, elles ont explosé. On a besoin de se déplacer de plus en plus, on fait de plus en plus de kilomètres. Il y a des études qui parlent même d'hypermobilité. Donc voilà, pour moi, le point principal, auquel on ne pense pas forcément, on pense tout de suite vélo, covoiturage, solution, etc. C'est comment je réduis les distances. Pour aller d'un lieu à un autre, il y a déjà des choses qui existent. C'est pas toujours possible de le faire autrement que tout seul dans une voiture diesel, etc., qui va avoir un impact environnemental. Souvent, les alternatives, on a tendance à les voir pas forcément de manière très désirable. C'est-à-dire que les personnes vont dire les transports en commun, ça prend plus de temps. Le covoiturage aussi, parce qu'il faut que je fasse un détour. Le vélo aussi, c'est plus long que prendre sa voiture. On ne regarde pas forcément les avantages, et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie aussi de mettre en avant. On a réalisé une exposition mobilité qui justement lève ce genre de frein pour se dire, si je prends le vélo, ça va peut-être être plus long, mais je vais faire du sport. Et donc, je ne vais pas avoir besoin de passer du temps à la salle de sport parce que j'aurais fait du sport sur le vélo. Ou alors, dans les transports en commun, oui, ça prend plus de temps, mais je ne suis pas en train de conduire. Donc, si je veux lire, préparer ma liste de courses, téléphoner à mes amis, envoyer des SMS, je peux le faire dans le train et c'est du dans les transports en commun. Et donc, c'est du temps utile. C'est pas du temps perdu. Pareil, le covoiturage, bah, en effet, il faut faire un petit détour, mais on gagne aussi de l'argent hein, en covoiturant parce qu'on partage les frais. Et puis, on se sent moins seul, on échange avec quelqu'un parce qu'on est deux dans la voiture, donc on discute et c'est enrichissant. Et donc, ça, c'est tous ces avantages aussi de la mobilité qu'on essaie de mettre en avant, de dire, bah, attends, il n'y a pas que le temps qui a regardé. Il y a d'autres avantages quand on change de mobilité et c'est important à la fois de les connaître et de pouvoir les utiliser. Ensuite, quand on veut changer de mobilité, il y a aussi toute une phase d'apprentissage quand on change de comportement qu'on peut essayer de favoriser en tant qu'entreprise ou en tant que collectivité. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait très long. Donc si je résume, voilà, les choses qu'on peut faire en mobilité durable, ça va être réduire les distances, réfléchir en premier à comment je réduis les distances. Et en deuxième, faire connaître les modes alternatifs à la voiture, à être tout seul en voiture, en regardant les avantages.
Et donc là, en fait, vous agissez à la fois sur les solutions, sur la mise en place de solutions, mais également sur les changements de regard sur ces solutions-là, sur de l'accompagnement au changement et trouver une solution qui va convenir à chaque personne qui ne sera pas la même en fonction des avantages qu'on valorise en fonction de ce qu'on préfère ou autre. Quand tu dis réduire les distances, je me demandais, est-ce que vous avez déjà conseillé, par exemple, à des entreprises ou des communautés de déménager ?
Ça peut être une façon de le faire. Alors, pour faire déménager une entreprise, c'est quand même compliqué juste pour ce motif-là. Ça va plutôt être regardé quand l'entreprise a besoin de déménager. On va dire, où est-ce que ce serait pratique de déménager pour les salariés, pour qu'ils aient besoin de moins se déplacer ou qu'ils puissent venir plus facilement ? La réflexion, elle est plus à mener quand on veut s'installer quelque part en tant qu'entreprise. Après, c'est quelque chose qu'on conseille aux salariés quand on est directement en phase 2. C'est compliqué hein, de déménager aussi juste pour cette raison-là, surtout quand on n'est pas tout seul à vivre à un endroit, qu'on a une famille, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on leur dit. Est-ce que vous avez la possibilité de déménager plus près de votre travail si vous faites beaucoup de kilomètres ou plus près d'un transport en commun ? Parfois, il n'y a pas besoin de se rapprocher de son travail, mais juste de se rapprocher d'un transport en commun, d'une ligne de train, etc. C'est pas toujours possible, mais juste proposer cette réflexion qu'on ne prend pas toujours en compte quand on choisit un lieu de vie. C'est quelque chose qu'on fait, ouais.
Ok. C'est vrai que moi, ça me faisait penser aussi à ces nouveaux modes de travail aussi où les entreprises vont avoir un lieu de base et où les salariés peuvent potentiellement faire du télétravail ou aussi se rattacher dans certains coworking ou des bureaux qui pourraient être répartis dans la ville finalement au lieu d'avoir un immeuble central et de retrouver ses collègues mais à plusieurs endroits dans la ville et au plus proche de là où on habite en fait.
Mmh. Ouais, c'est sûr que l'organisation que vous avez chez Greenscale sans bureau et tout en télétravail, c'est encore assez rare. Moi, je travaille aussi beaucoup avec des entreprises qui sont dans l'industrie, dans le transport, dans la logistique et en fait... on ne peut pas déplacer ces activités-là chez les personnes. Donc parfois aussi, les solutions qu'on va avoir, ça va être d'aménager les horaires de travail, soit pour que ça corresponde aux horaires de transport en commun, soit pour mettre en équipe les personnes qui viennent du même endroit pour qu'elles puissent covoiturer. Ça peut être aussi de réduire le temps de pause le midi pour que les personnes puissent partir plus tôt le soir, mais qu'elles aient pas forcément le temps et le besoin de rentrer chez elles le midi, parce qu'en fait, ça fait encore plus de trajet de rentrer chez soi le midi. Des fois, je rencontre des salariés qui disent « Mais moi, je suis qu'à 5 km du travail. » Je suis « D'accord, ça fait 10 km par jour. » Et si vous rentrez chez vous le midi, ça fait 20 km par jour pour aller au travail. Donc en fait, juste en ne rentrant pas le midi, on diminue par deux les distances parcourues. Donc ça peut être ça. Et puis, on commence à voir... j'ai pas eu le cas d'une entreprise, mais... dans les questionnaires qu'on fait passer aux salariés sur quelles sont leurs attentes, je vois arriver des attentes autour de la semaine de 4 jours, qui est aussi une façon de réduire les distances parce qu'on vient travailler un jour de moins dans la semaine.
Que de bonnes idées et du coup que d'alternatives possibles. Donc, comme tu le disais très bien, il n'y a pas une seule solution. Et comment tes collègues et tes partenaires voient ton travail ?
Comment ils le voient, ça dépend lesquels. mes collègues, on est tous convaincus de la mission qu'on mène sur la mobilité. Donc, bien sûr, on se soutient. Et là-dessus, on travaille bien ensemble en transversalité quand il y a besoin. Mes partenaires, quand c'est les collectivités territoriales, ben, c'est leur propre projet. Donc, ils sont plutôt contents qu'on puisse les épauler. Les entreprises, ça dépend dans quel cadre on les approche. Et puis, la mobilité durable, c'est très large, en fait. Ça recouvre à la fois leurs véhicules de flotte, les déplacements des salariés, l'organisation du travail, l'aménagement de leur site. Donc, ça dépend un petit peu pour quelles raisons on échange avec eux. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir avec eux une démarche globale qui englobe tout ce que je viens de citer. Mais parfois, vont-nous juste nous contacter pour des questions sur des véhicules électriques, pour leur flotte, des choses comme ça. Et ce qui est très bien, hein, déjà. Mais elles ne vont pas du tout être ouvertes sur, ben, en fait, est-ce que vous avez besoin de véhicules pour vous déplacer ? Est-ce que le vélo, ça ne peut pas être une option ? Est-ce que vous avez travaillé sur la mobilité de vos salariés ? Et parfois, elles n'en sont pas à ce stade-là. Voilà, et c'est notre défi d'essayer de leur proposer d'agir sur tout le volet de l'écomobilité et pas juste un seul.
Et de pousser, du coup, cette démarche globale. Justement, une organisation, plutôt en entreprise ou collectivité, tu me diras, c'est sûrement assez différent. Comment est-ce qu'elle aborde au départ sa transformation sur le sujet de l'écomobilité ?
Alors, nous, ce qu'on conseille, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de faire un plan de mobilité employeur ou un plan de mobilité administration, quand c'est une collectivité pour ses propres agents. C'est quelque chose de réglementaire. Il faut savoir que tous les établissements de plus de 50 salariés doivent intégrer la mobilité dans leur négociation annuelle obligatoire. Et s'il n'y a pas d'accord, elles doivent faire un plan de mobilité employeur qu'elles envoient à leur collectivité. On essaie vraiment de pousser à ce qu'elles le fassent, parce que déjà, pour aller négocier, c'est bien pour avoir des données claires sur comment se déplacent les salariés, quels sont les problèmes de mobilité qu'ils rencontrent. Et parce que c'est une démarche projet assez complète qui permet de toucher à tous les sujets. C'est-à-dire que dans un premier temps, elles vont faire un diagnostic justement de qui vient sur leur site et comment ces personnes-là viennent. Quelles sont les alternatives ? Est-ce qu'il y a un transport en commun pas loin ? Est-ce qu'il y a des aménagements cyclables ? Est-ce que c'est possible de venir à vélo ? Des fois, on a des sites qui sont sur des grosses départementales et clairement, conseiller aux salariés de venir à vélo, c'est très dangereux. On questionne les salariés, on regarde d'où ils viennent et quels sont les potentiels de report avec ce qui existe. Donc, lesquels sont suffisamment prêts pour venir à pied, pour venir à vélo ? Est-ce qu'il y en a qui habitent proches les uns des autres, qui pourraient créer des équipages de covoiturage ? Est-ce qu'il y en a qui sont proches des lignes de transport en commun, etc. Et puis, on regarde aussi toute la partie organisation du travail. Suite à quoi l'entreprise, elle, soit négocie directement avec les représentants des salariés, soit passe à une partie plan d'action. Donc, elle se fixe une stratégie vers laquelle elle veut aller. Dans la loi qui encadre les plans de mobilité employeur, on demande au moins de proposer un objectif de part modale. Part modale, c'est sur l'ensemble de mes salariés, combien viennent aujourd'hui à vélo, par exemple. Donc ça va nous donner la part modale du vélo. Et si elle est à 1%, ben peut-être que l'objectif, ce sera que dans 3 ou 4 ans, elle passe à 3%. Et après, l'entreprise décide de mettre en place un plan d'action autour de sa stratégie. Donc c'est sur... Je vais essayer de donner des exemples, hein, pour que ce soit concret et puis donner des idées aux personnes qui écoutent. Si c'est sur, par exemple, le vélo, ça peut être, déjà, est-ce que j'ai un stationnement vélo sécurisé, abrité pour mes salariés ? Est-ce qu'ils ont un endroit pour poser leurs affaires, des casiers ou autres ? Est-ce qu'ils ont des douches ? Ça peut être aussi, parfois, de proposer des animations, de la formation. Donc la formation, ça peut être carrément de la vélo-école. Il y a des personnes qui ne savent pas faire de vélo ou savent faire du vélo, mais pas en circulation. Et elles ont besoin d'être accompagnées, d'être rassurées là-dessus. Ça peut être des ateliers de réparation vélo aussi. D'ailleurs, ça concourt complètement aux politiques de sécurité routière, enfin d'éviter les accidents du travail. Hein. Si on a des cyclistes, c'est important qu'ils aient des vélos en bon état. Si c'est sur le covoiturage, ça peut être de proposer une plateforme pour covoiturer, d'aider à la création d'équipages de covoiturage. Ça peut aussi être, quand on veut travailler sur sa marque employeur, d'indiquer qu'on fait pour aider les salariés à venir autrement que tout seul dans leur voiture. C'est vrai qu'on voit encore des postes où il y a marqué « permis B plus véhicule obligatoire », je ne sais même pas si c'est légal. En tout cas, nous, on pousse à ce qu'ils écrivent possibilité de covoiturage, indemnité kilométrique vélo, des choses comme ça, pour montrer aux salariés qu'il y a des possibilités de venir travailler dans cette entreprise autrement qu'en voiture. Donc ça se travaille même avant d'avoir recruté. Après, sur les transports en commun, ça peut être... Il y a une prise en charge qui est obligatoire déjà par les entreprises de 50% de l'abonnement de transports en commun. Ça peut être d'aller au-delà ou ça peut être d'aménager les horaires pour qu'ils soient compatibles avec les horaires de transports en commun ou d'avoir une certaine flexibilité aussi. Parfois, il y a des transports en commun qui ne sont pas à l'heure. C'est pas toujours le cas, faut pas dramatiser non plus, mais ça peut arriver. Donc en fait, si on incite nos salariés à venir autrement, bah, il faut être potentiellement aussi un peu flexible, ou en tout cas discuter avec eux de ce sujet-là, de ben, s'il y a un retard, qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est des idées comme ça qu'on retrouve assez souvent dans les entreprises, de choses qui peuvent être mises en place. Donc en gros, on a des parties un peu infrastructure, gestion du parking, stationnement vélo, une partie service, par exemple une plateforme de covoiturage, un atelier de réparation vélo, et une partie animation, formation, sensibilisation des salariés qui peut passer par des challenges. Nous, moi, je travaille en Auvergne-Rhône-Alpes et on a un challenge mobilité d'une journée où c'est des entreprises qui se mobilisent en disant bah, « aujourd'hui, on essaie tous de venir autrement ». Voilà, c'est une façon aussi d'aider les personnes à passer à l'action concrètement. Et toutes ces étapes, elles sont importantes en changement de comportement. C'est-à-dire que là, on retrouve la possibilité de faire autrement parce que j'ai des services, parce que j'ai des infrastructures ou des services qui me permettent de covoiturer, de venir à vélo, de prendre les transports en commun, etc. La partie d'accompagnement avec des ateliers ou une plateforme de covoiturage où on va m'accompagner à faire ça, et la partie animation où je vais passer à l'action en tant que salarié. Donc voilà, pour moi, ces trois étapes-là, elles sont importantes pour réussir à changer les comportements.
Là, voilà des solutions très concrètes avec plein d'exemples d'actions à mener. Je pense que chaque personne qui écoutera cet épisode saura exactement qu'est-ce qui est possible. Et du coup, pour les salariés, quelle est la participation? Alors, j'imagine bien de changer du coup leur mobilité personnelle. Mais comment est-ce qu'ils pourraient participer à ce choix-là dans l'entreprise ou dans l'organisation?
Ça peut passer par différentes choses. La première, je l'ai dit, c'est que si l'entreprise a plus de 50 salariés sur son site, elle a des négociations annuelles obligatoires. Et quand on est salarié, qu'on soit représentant du personnel ou pas, c'est une instance où on peut parler mobilité, très clairement. Donc, soit on est représentant et on en parle directement, soit on ne l'est pas et on peut aller voir les représentants du personnel pour dire que c'est un sujet qu'on voudrait aborder, pour faire remonter les besoins aussi. Ensuite, il y a quelque chose dont je parle de temps en temps dans le podcast, c'est d'être identifié en tant qu'écolo au boulot. C'est-à-dire que je vois ça assez souvent... Les salariés qui viennent à vélo et qui ont leur casque et qui sont identifiés comme le monsieur, madame de l'entreprise, monsieur, madame vélo dans l'entreprise, c'est vers ces personnes-là que vont se tourner les autres salariés le jour où ils veulent se mettre au vélo. Et en fait, c'est un exemple vélo, mais voilà. Si vous venez à vélo, ils vont vous dire, mais attends, comment tu t'organises pour transporter du matériel, pour aller faire tes courses, quand il pleut, tu fais comment, tu gares où ton vélo, etc. Et en fait, on devient une personne ressource. Donc, une chose aussi toute simple, c'est de montrer et de dire comment on vient, parce que c'est comme ça qu'on peut essayer de convaincre les autres et leur montrer que c'est plutôt sympa, en fait. C'est pas une contrainte, forcément.
Et du coup, de devenir cette personne ressource pour pouvoir répondre aux questions, rassurer potentiellement, en tout cas avoir quelqu'un dans l'équipe finalement qui a déjà testé ce mode de mobilité et qui peut en témoigner, ça peut vraiment aider à changer pour les autres, parce que à partir du moment où on arrive à se projeter et à lever les difficultés possibles par une discussion par exemple, ça peut très bien marcher. Et c'était déjà un conseil pour les salariés, mais si on a un ou une salariée qui souhaite changer, qui souhaitent réaliser une action particulière dans la mobilité douce, quel conseil? Alors, ta fameuse question de la fin du podcast, quel conseil tu donnerais à ce salarié?
Je dirais que c'est le conseil que, qui est celui pour lequel j'ai créé ce podcast, c'est vous avez la légitimité et vous avez le pouvoir de faire changer les choses, quel que soit votre poste dans l'entreprise. Juste avant, on a donné quelques idées, mais globalement aussi, il faut se dire que la mobilité dans les entreprises, c'est quand même un sujet relativement nouveau. Et votre employeur, il aura probablement besoin d'appui et de personnes comme vous motivées pour mettre des choses en place. Et si vous levez la main pour aider, pour raconter ce que vous faites, pour si un jour il y a une animation dans l'entreprise pour participer à l'animation, c'est une grande richesse pour l'employeur. Dans le changement de comportement, aujourd'hui la norme, c'est pas l'écomobilité en entreprise. Voilà, on va dire, je crois que c'est 70% des salariés qui vont travailler tout seuls dans leur voiture. L'objectif, c'est de réduire cette part-là et que les 30% de salariés qui viennent autrement au travail que tout seul dans leur voiture, ils deviennent majoritaires. Et quand on devient majoritaire, ça a un effet d'entraînement assez important. Et c'est cet effet-là qu'on va aller chercher. Donc, il faut transformer l'environnement autour de nous. Quand on voit que les choses changent autour de nous, c'est plus évident de se dire, moi aussi, en fait, il va falloir que je change parce que là, je suis le seul à venir tout seul dans ma voiture. Tout le monde a réussi à faire autrement. Donc, pour moi aussi, ça doit être possible. Dans des entreprises, on fait des portraits des salariés qui viennent travailler à vélo, en covoiturage, en bus, etc., pour les valoriser, pour montrer que c'est possible et pour qu'ils soient identifiés auprès de leurs collègues. Donc, voilà, mon conseil, c'est n'ayez pas peur de ne pas être légitime. Tout le monde est d'accord, globalement, pour dire que la mobilité durable, c'est bien. Donc, si vous avez envie de porter ce sujet en entreprise ou en tout cas d'accompagner votre employeur, dites-le, proposez des choses. Et peut-être que c'est pas tout de suite dans le mois qu'il va se passer quelque chose forcément sur le sujet, mais en tout cas, vous serez identifié et ça peut que aller dans le bon sens.
Et c'est la masse de tous les auditrices et auditeurs d'Écolo au boulot du coup qui va impulser ce changement dans plein d'organisations. Bravo Cassandre.
Mais on dit qu'il faut que 10% de la part dans une société pour mener une transformation. Et moi, je crois à cet effet d'entraînement. En effet, s'il y a 10% de personnes qui se mobilisent pour l'écomobilité, ils peuvent en entraîner plein d'autres. Et peut-être un dernier conseil, je le dis de temps en temps aussi, mais je pense que c'est bien de le répéter, c'est que ne rentrez pas dans des débats stériles avec des personnes qui ne veulent pas changer de mobilité ou qui ne peuvent pas changer de mobilité. Essayez plutôt de convaincre ceux qui voudraient bien, mais qui ne savent pas trop comment faire. Vous perdrez beaucoup moins d'énergie et ce sera bien plus efficace.
Et ça ira encore plus rapidement. Super. Merci Cassandre.
Bah écoute, merci d'avoir hacké ce podcast. C'était très drôle de passer de l'autre sens.
Bah écoute, ça m'a fait vraiment très plaisir de le hacker pour toi. Et puis merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que l'interview de Cassandre vous a plu. Maintenant, vous en savez plus, encore plus sur ce café. La prochaine fois, ce sera pas moi, je m'éclipse et je redonne la main à Cassandre pour le prochain épisode.
Merci, à bientôt. Je reprends la main sur le podcast pour vous remercier de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre Écolo au boulot. C'est très gratifiant et j'aime à croire que ça aide de plus en plus de personnes à agir concrètement dans leur entreprise. En parlant de concret, on vous prépare de nouveaux formats en 2023 pour comprendre, agir, s'inspirer et aussi penser à sa carrière dans un monde qui entame sa transition écologique. J'ai hâte de vous les faire découvrir. Le prochain épisode sera dans 3 semaines, comme d'habitude. En attendant, je vous recommande de vous inscrire à la newsletter Écolo au boulot. Le lien est en description de cet épisode. Vous recevrez ainsi le dossier Écolo au boulot du mois, avec des propositions d'action à tous les niveaux. En janvier, je vous ai partagé des pistes pour gérer les déchets organiques en entreprise. Si le sujet vous intéresse, il n'est d'ailleurs pas trop tard pour vous inscrire à l'atelier Écolo au boulot, en tout cas si vous écoutez cet épisode à la sortie. Ce sera en visio, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire avant le 8 février. On démarre à 12h45 pour 1 heure. Je vous mets également le lien en description pour vous inscrire. Merci et à bientôt. Ciao !